On commence Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 42. Dans le chapitre 42, qu'on a commencé la semaine dernière, on a ramené un texte de la Gemara, qui commentait un verset, dans lequel Moshe Rabbeinu, Moïse, s'adresse au peuple juif, quelques semaines avant sa mort, et il leur dit la chose suivante. Il leur dit, maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Te demande seulement de le craindre, c'est tout. C'est ce que Moïse dit aux enfants d'Israël. Comme si que craindre Dieu, c'était quelque chose de facile. Qu'est-ce qu'il te demande déjà? De le craindre, ça. Gemara Brachot, page 42, pose la question. Il dit, mais c'est quoi ce discours de Moshe Rabbeinu? Est-ce que craindre Dieu, c'est une mince affaire? Qu'est-ce qu'il te demande? C'est compliqué. Les gens essaient toute leur vie, ça passe, ils réussissent. Moshe lui demande comme ça. Qu'est-ce que répond la Gemara? La Gemara répond une réponse qui est bizarre, a priori. Elle répond, elle dit, oui, pour Moïse, c'est facile de craindre Dieu. Pour ça, la Gemara Zaken, il pose une question. Il dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cette réponse pour Moïse, c'est facile? On s'en doute pas que pour Moïse, c'est facile. Mais Moïse, il leur parle en tant que dirigeant. Et un dirigeant, il dit pas que c'est facile pour lui, il faut voir pour eux, pour les enfants d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire lorsque Moshe Rabbeinu, lorsque Moïse, il est en train de dire aux enfants d'Israël, il leur dit, qu'est-ce que Dieu te demande seulement de le craindre? Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara nous dit que pour Moïse c'est facile. Qu'est-ce qu'on en a à faire pour Moïse c'est facile? Pas Moïse qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que pour nous c'est facile ou pas? Alors qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit qu'en vérité la réponse de Moïse est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. En vérité, au fond de chacun de nous se cache un petit Moïse.
Ah bon? Elle, ça doit faire réfléchir, ouais, ça.
Je l'ai dit à, ah ouais, femme, je l'ai dit à ma femme en rentrant.
Alors,
elle t'a rionné? Elle t'a rionné?
C'est gros, t'as
travaillé ça, gros.
Je te dis bien, je te parle.
Va ouvrir la mer!
Est-ce que c'est par l'étincelle divine?
Attends, on va expliquer. D'accord, bon, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, je vais faire un petit résumé. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, je peux pas résumer en deux minutes un cours d'une heure et quart, mais je vais quand même donner quelques mots. On va pas vous laisser sans rien. On a expliqué qu'en vérité, dans la neshama de chacun de nous, nous avons un petit Moïse. C'est quoi ce petit Moïse? Je vais expliquer. Ce petit Moïse, on a expliqué qu'en fait, dans notre neshama, nous avons sept branches. De la même façon que dans la menorah, il y a sept branches, dans notre neshama, nous avons sept branches. Ces sept branches correspondent aux trois patriarches, messieurs, aux trois patriarches Abraham, Yitzhak et Jacob, ainsi qu'à certains dirigeants d'Israël. Maintenant, lorsqu'on prend la menorah, dans la menorah, il y a une tige centrale. Il y a trois tiges à droite, trois tiges à gauche et une tige centrale. Toutes les tiges sont connectées à la tige centrale. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est de droite, il y en a un qui est d'extrême droite, il y en a un qui est de gauche, il y en a un qui est d'extrême gauche. Mais il y en a un qui est incontournable. C'est la tige centrale. Non, c'est pas centriste. C'est celui qui regroupe tout le monde. C'est le rassembleur.
C'est le verrou du milieu.
C'est l'Assemblée nationale. Ça, vous pouvez retrouver chez qui vous voulez. D'accord? Pour moi, c'est Moïse. C'est quoi Moïse? Moïse, c'est celui qui est capable de rassembler tout le monde. Et on a expliqué que de la même façon, dans les profondeurs de chacun de nous, il y a un petit Moïse. C'est quoi ce petit Moïse? Ce petit Moïse, c'est la capacité que nous avons en nous de réaliser et de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement la réponse qu'on va décortiquer aujourd'hui encore, que Moshe Rabbeinu est en train de dire aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous croyez que pour craindre un Kadosh Baruch Hu, il y a besoin qu'il y ait un tremblement de terre, il y a besoin qu'il y ait un Irma, il y ait un José, je ne sais pas qui. D'accord? Et c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Ah, Katia, d'accord, bon, alors.
C'est I, J, K, à chaque fois, c'est comme ça.
Et H, A, V.
Ah oui, c'est comme là?
Comme ça, ça marche.
Ah, ok.
Ah,
ça
B. Ah,
ouais. Et chaque fois, féminin, masculin, féminin, masculin.
Ah, d'accord, bon, ok.
Mais les plus durs, c'est les féminins. C'est vrai, ils disent, c'est pas moi, hein. Non, mais sérieux?
Alors, comme ça, il dit, Moshe Rabbeinu, il leur dit, venez Israël, leur dit, vous croyez que pour qu'on arrive à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il faut que la mer s'ouvre en deux. Il faut qu'elle diplée. Il dit pas du tout. En vérité, il n'y a pas besoin d'arriver à ça. En vérité, au fond de chacun de nous, il y a un petit Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau que si on arrive à faire appel à ce niveau de notre Neshama, comme on va décortiquer aujourd'hui comment on fait, si on arrive à faire appel à ce niveau, chacun de nous peut croire en Dieu comme Moïse. Et il peut craindre Dieu comme Moïse. Seulement, le plus compliqué, c'est quoi? C'est de faire appel à ce niveau. En général, ce niveau, on en fait appel seulement quand il y a besoin. Quand on n'a vraiment pas le choix, quand on est au pied du mur, là on se met à chercher ce qu'on a dans le ventre, et là effectivement, on découvre qu'en vérité, en nous, on a un niveau de croyance exceptionnel. Le problème, c'est qu'en général, on ne le fait pas. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Moshe Rabbeinu leur dit, maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande de le craindre. Gemara pose la question, elle dit, mais est-ce que c'est facile de le craindre? Qu'est-ce que répond la Gemara? Elle dit, pour Moïse, c'est facile. Pas pour Moïse, le grand Moïse. Pour le Moïse qui est en nous, c'est facile. Ça veut dire que si j'arrive à éveiller le Moïse qui est en moi, je peux tout faire. Et on a terminé la semaine dernière en expliquant que quel est le rôle de Moïse. Le rôle principal de Moïse, c'est de permettre aux gens de réaliser. Rappelez-vous l'exemple qu'on a donné la semaine dernière, le voleur qui s'apprête à commettre son larcin. Et juste avant de le faire, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il dit, Dieu, aide-moi. Comment ça se fait? Parce que sa émouna est superficielle. Et c'est quoi le rôle du tzaddik? Le rôle du tzaddik, c'est d'aider justement à que la émouna ne soit pas superficielle. Qu'on arrive à intérioriser la émouna. Et la clé est là. En vérité, la clé est là. C'est exactement ce qu'explique ici le Rabbi Shneur Zalman. Tu dis comme ça. Il te dit, tout dépend de toi. On peut te répéter des messages 15 fois, 100 fois, 1000 fois. Tant que t'as pas intériorisé, il va rien se passer. Ça veut dire qu'il y a un moment, un déclic, un moment dans lequel on intériorise. C'est-à-dire on comprend que je parle de moi et que ça marche, etc. Et à ce moment-là, ça décolle. Tant que tu n'as pas compris ça, il peut se passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne bougera pas. C'est ça le rôle de Moshe Rabbeinu. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de nous aider à intérioriser. Et en vérité, au fond de nous, chacun, on a un petit Moshe Rabbeinu. Et une petite sonde comme ça, que son rôle principal... C'est ni de te faire croire, ni de te... Rien du tout. C'est de t'aider à intérioriser ce que tu entends. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour t'apprendre des choses. Les choses, tu vas les apprendre avec la vie, avec les cours de Torah où tu vas aller, avec les livres que tu vas lire. Tu vas apprendre plein de choses. Mais le problème, c'est que ça reste de la connaissance. C'est tout. C'est quelque chose qu'on connaît et qu'on ne vit pas. C'est pas assimilé. C'est pas assimilé. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de t'aider à intérioriser ça. Le rôle de Moshe Rabbeinu, du Moshe qui est en nous aussi, c'est de nous aider à intérioriser et de nous attacher avec nous-mêmes, de comprendre ce qu'on a en nous-mêmes. Avant d'avancer dans la suite, ça c'est un des grands messages de la Chassidoute. Les gens pensent souvent que la solution se trouve ailleurs. Vous savez combien d'exemples on a de milliers d'histoires comme ça, où les gens venaient voir le Rabbi, ou même des lettres aujourd'hui. Aujourd'hui on a des dizaines de milliers de lettres du Rabbi qui sont publiées, que les gens ont publiées. Et on voit dans ces lettres comment... C'est vraiment, c'est une des réponses qui revient le plus souvent. Les gens écrivent au rabbi. Ils ont un problème. Qui n'a pas de problème? Ils ont un problème. Et en général, la réponse qui revient tout le temps, sous différentes formes, bon, d'accord? C'est qu'en vérité, la clé de la solution se trouve en vous. Seulement, il aide à trouver la solution. Donc, il dit, bon, on va t'aider, voilà ce que tu dois faire. Mais ne crois pas que la solution va venir d'ailleurs. Elle vient pas d'ailleurs, la solution. La solution, elle vient de toi. Si tu arrives à intérioriser, à prendre les choses en toi, tu trouveras la solution. Seulement, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut d'abord se sentir concerné. Ok. Alors, on va maintenant essayer de décortiquer un peu plus, pour essayer de comprendre, quel est le rôle d'un rabbi, et comment ce rabbi, d'accord, un rabbi, c'est un tzaddik, et comment ce rabbi éveille le petit Moshe qui est en nous. Parce que, encore une fois, c'est là le problème. La connaissance, on a. C'est pas un problème de connaissance. Comment vous expliquez qu'il y a des gens qui sont ignorants et qui croient en Dieu parfaitement, et d'autres qui sont des grands connaisseurs et que ils connaissent beaucoup de choses, mais qu'ils sentent pas qu'ils vivent? Parce qu'en vérité, c'est ça la question. La question, c'est est-ce que j'ai intériorisé ou j'ai pas intériorisé?
Ça veut dire quoi, intérioriser?
Intérioriser, ça veut dire réaliser ce qu'on te dit. Comme l'exemple qu'on a donné la semaine dernière avec la cigarette. Tu peux dire à une personne pendant 20 ans que la cigarette, ça tue. Tu peux lui mettre sur les paquets de cigarettes. Il peut même voir des gens mourir. Mais tant qu'il n'y a pas le déclic, il continuera à fumer.
Mais c'est difficile de réaliser ça. Après, je vois au fond, parce que, à la rigueur, c'est un peu plus facile pour la cigarette, parce qu'on a des cas concrets qu'on voit ou qu'on vit.
Ouais.
Mais après, je vois au fond, le principe de la vie qu'on est ici, c'est qu'on
mais
est caché.
Oui, mais c'est des messages, c'est des messages que tu entends. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu comprennes qu'on parle de toi, tu comprends? On parle de toi et que je peux le faire. Oui. Ça veut dire que si c'est juste des messages qu'on entend comme ça, qui rentrent d'une oreille et qui sortent d'une autre, avec la meilleure volonté, parce qu'on vient à un cours de Torah, c'est-à-dire qu'on est de bonne volonté. Bah, si je suis pas de volonté, je reste chez moi à la maison. D'accord, je sais pas ce qu'il y a ce soir qui tourne.
Ça va, il n'y a pas de football.
Il n'y a pas de football. Enfin, j'aurais pu rester chez moi à la maison. Bon. Je suis venu à un cours de Torah, je suis de bonne volonté. D'accord.
Pas, il veut pas faire la vaisselle, c'est pour ça qu'il est.
Mais, je suis de bonne volonté. Bon, bah, mais néanmoins, d'accord, néanmoins, tant que je n'arrive pas, tant que je n'arrive pas à intérioriser, ça passe pas. D'accord. Et c'est là le rôle d'un tzaddik. Quel est le rôle d'un tzaddik? Le rôle d'un tzaddik, c'est de t'aider à intérioriser. Ça veut dire, pour être un peu plus technique, le rôle du tzaddik, c'est de faire appel à ton da'at, de t'aider à développer le da'at qui est en toi, le da'at qui te permet d'intérioriser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous dit « Atachonen le Adam da'at ». Vous savez que dans l'Amida, nous avons trois bénédictions au début de l'Amida, trois bénédictions à la fin, qui sont tout le temps les mêmes. Ça peut être Shacharit, Mincha, Arvit, Shabbat, Kippour, Neila, tout le temps, trois bénédictions du début, trois bénédictions de la fin, sont tout le temps les mêmes. Mais les bénédictions médianes, c'est là que ça change. Quelle est la première bénédiction médiane qu'on fait en semaine? On va faire tout à l'heure. Atachonen le Adam da'at. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu donnes à l'homme, tu gratifies l'homme de da'at, la capacité de discerner. Ça, c'est la plus belle bénédiction que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qui différencie un homme d'un animal? Et encore, les animaux, ça dépend des animaux. C'est qu'Hachem nous a donné le da'at. C'est pas seulement la chorma. Il y a des animaux qui sont très intelligents. Bien sûr. Il y a des animaux qui sont très intelligents, qui sont capables de te prévoir un coup. Bien sûr que les animaux. Il y a l'intelligence brute. Il y a des animaux qui ont l'intelligence. Seulement, quelle est la qualité principale de l'homme?
Une forme d'intelligence.
C'est une forme d'intelligence.
Bien sûr.
C'est une forme d'intelligence. Il est capable d'être plus intelligent que toi dans certains domaines.
Bien sûr.
De te surprendre. Si tu te surprends, c'est qu'il a prévu un coup. Tac, 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 tac. C'est vrai que ça marche. Mais.
C'est dans sa nature.
Mais
attends. Ce qu'il a mis en place.
Oui, mais c'est quand ça se passe sa nature, mais il y a quand même une forme d'intelligence.
Oui, certains animaux, ils peuvent, ils évoluent.
Bien sûr qu'ils évoluent.
Les rongeurs, surtout.
S'il pleut, il est incapable de fabriquer un toit d'accord. pour se protéger.
Donc, j'ai compris.
De faire une plante, de tuer, ton machin.
D'abord, un animal, il est capable de. Faire un toit, c'est pas discerner.
Oui, mais. C'est pas discerner. Il peut pas avoir concept.
Il peut se créer, on a vu. Vous n'avez pas idée ce que vous avez construit. Il peut se créer une grotte.
Oui, on a les concepts.
Joseph, il peut se créer une grotte.
Tu vois un castor, il fait un barrage.
Bien sûr. Oui, c'est un barrage. Oui. Bon. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné la capacité de discerner. Atachonen la dame da'at. Akadosh Baruch Hu nous a donné la capacité de discerner. Ça veut dire de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est intelligent, ce qui est bête, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est jugé, parce qu'on a libre arbitre. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que cette capacité de discerner, on ne l'utilise pas assez. C'est-à-dire que très souvent, on agit par instinct. Je fais ce que je sens et je ne fais pas ce que je ne sens pas. Mais je ne réfléchis pas vraiment. Je n'utilise pas mon da'at, ma capacité de discerner. Donc en vérité, excusez-moi du terme, mais j'agis quelque part comme un animal. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, des réactions qu'on a, qui sont des réactions animales. Alors Freud, il pousse ça encore beaucoup plus loin. Hein. Freud, il dit carrément que l'homme est pratiquement un animal, quoi. C'est un animal évolué. Bon, n'est-ce pas, vous confirmez hein? Pour Freud, on est des animaux. Presque. Bon.
Si ça prenait un sens, l'action qu'on va faire, on la ferait pas.
Alors c'est quoi, justement?
On
réagit beaucoup comme les animaux.
Je parle sous le contrôle de Mendy, mais justement dans l'Amida, on dit d'abord on peut discerner pour après faire slach l'animal.
Voilà.
Et venir parce à que, la Torah. Parce
exactement.
Que là, sinon ça sert à rien. Sinon on ne peut pas faire tuer. Enfin, et il y a un ordre. C'est pas ce qu'on discerne, on fait après les autres.
Tu peux pas demander pardon si t'as pas discerné qu'il y a une faute. D'avoir une prise de conscience. Et voilà, la prise de conscience est incontournable. Et c'est ça notre plus grand. Vous savez, il y a un mahamar du rabbi précédent, dans lequel le rabbi précédent explique que ce qui manque le plus à l'être humain, en particulier dans notre génération, donc déjà il parle déjà de ça il y a 70 ans, donc déjà sa génération, ce qui manque le plus aux gens, c'est ce qu'on appelle le simat lev. Simat lev, justement, j'ai étudié ça Shabbat. C'est quoi le simat lev? C'est l'attention. L'attention portée aux choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a accès à énormément de savoir. On a accès à beaucoup de savoir. On a accès à beaucoup de choses. D'accord? Par exemple, on entend, tu ouvres l'actualité. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu entends que bon, il y a un ouragan qui est passé. Tu entends qu'il y a un juif qui s'est fait agresser à une famille.
Livré gargant.
Tu entends? Maintenant, est-ce qu'on prend conscience? Est-ce que je prends conscience comme le monsieur qui est à Livry-Gargan, qui est voisin, ou comme celui qui est devant l'eau? Non. Maintenant, peut-être qu'on me met peut-être des images télévisées, on me monte avec des images satellites 3D qui te montrent l'œil du cyclone. Tu vois que tu le vois, etc., que ça tourne. Bon, tu regardes. Est-ce que ça t'a empêché de dormir?
Non.
Tu sais qu'il y a des communautés, tu sais qu'il y a des familles. Moi, j'ai des copains qui m'ont envoyé par WhatsApp qui sont là-bas. Ils ont des bêtes rabats, des synagogues. Ça veut dire qu'ils ont des bêtes rabats de plusieurs étages. Ils ont dû stocker les tifrets Torah au dernier étage dans des sacs hermétiques, etc. C'est-à-dire qu'eux, ils le vivent. Tu comprends? C'est pas de la blague. Peut-être il va venir. Il faut se préparer. Il arrive. Est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Pourquoi? Parce que je prends pas conscience. J'ai retenu une information. Je peux te la répéter parfaitement. Mais je prends pas conscience de la chose. Et c'est ce qui manque aux hommes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui.
Je suis pas concerné.
Justement, comme je suis pas concerné, je prends pas conscience.
Je vis pas.
Certains quand même. Si vous c'est pas bien. L'exemple de ce.
Maintenant, justement, c'est pas. Bien sûr, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que quand tu prends pas conscience, tu peux pas t'identifier à quelque chose.
Non, mais je ne suis pas angoissé non plus.
Non, je ne suis pas dit angoissé.
Ah, les mecs ne font pas dormir. Hein.
Alors, je comprends. Ah, pourquoi tu regardes l'actualité? Ça te change quoi alors? Il y a des gens, vous savez, ils ne regardent pas l'actualité. Non, mais je vous explique. T'informer de quoi? Ça change quoi?
Ça n'ira pas plus loin.
Qu'est-ce que ça me change de savoir qu'en Floride et qu'en Saint-Martin, enfin Martin, Barthélémy, d'accord? Qu'est-ce que ça me change de savoir que là-bas il y a eu un ouragan? Ça me change quoi dans ma vie?
Pour ceux qui connaissent l'endroit.
Si je veux être concerné, je veux bien.
C'est qu'elle a la famille. Tout.
Ah, alors je suis pas concerné, c'est quoi? C'est
quand
du voyeurisme?
C'est pareil, quand on
j'ai envie de savoir ce qui se passe.
Quand on est attentat, on est tous concernés.
Bah,
on vibre.
Tu veux me savoir? Tu veux qu'on demande du sang?
Ça peut t'éveiller un sentiment
non,
de...
Non, vous comprenez ma question? Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, aujourd'hui, accès à l'information, on a accès à l'information. Mais on n'a pas le date, on prend pas conscience. Il y a un machal qu'on raconte chez les chassidim pour illustrer ça. On raconte qu'une fois, il y avait un homme illettré, qui était, comme la majorité des hommes de l'époque, était illettré. Il a reçu une lettre recommandée. Bon. Donc dans le village, il y a un postier qui vient, qui amène la lettre recommandée, etc. Mais il ne sait pas lire. Donc qu'est-ce qu'il fait quand on ne sait pas lire? On allait chez l'enseignant, il y avait l'enseignant du village, et tout le monde lui a amené la lettre. Bon. Alors, donc on amène la lettre chez le lecteur, et le lecteur il lit, d'accord? Et à un moment, au bout de quelques instants, celui qui le destinataire de la lettre, il s'effondre par terre et il s'évanouit. Tout le monde va à côté, ils vont voir le lecteur, ils disent mais qu'est-ce que tu l'as eu là? Alors il dit bah je viens de le lire dans la lettre, on lui annonce que son père est mort.
Bon.
Alors après on lui a posé la question, on a dit mais pourquoi lui il s'évanouit et toi tu t'es pas évanoui? Toi t'as vu l'information avant lui en plus. D'accord?
C'est pas compliqué.
Il dit parce que moi j'ai appris une information.
Il a fait son travail.
Et lui, il a vécu.
Mais j'ai pas vécu cette information. J'ai lu une information. Bon, il y a un monsieur qui est devant moi, il a un père, son père est mort. Bon, une information. D'accord? C'est un métier. D'accord? Mais lui, c'est son père. Donc comme c'est son père, c'est un choc. Il s'attendait pas. Ça veut dire quoi? Là, c'est un exemple qu'on ramène pour expliquer.
Mais il y a des métiers où il ne faut pas du reste, parce qu'un médecin...
Mais tu parles d'empathie, qui travaille à Curie.
Tu parles d'empathie. S'il rentre, il doit être empathique, d'accord, mais s'il le vit...
J'ai pas demandé de le vivre, mais il faut prendre conscience. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut prendre conscience. D'ailleurs, aujourd'hui, en médecine, de plus en plus, ils investissent sur l'éthique médicale. Parce que, parce que lorsque vous avez une personne qui vient, qui est en train de souffrir,
l'éthique, c'est une chose de la psychologie.
Vous pouvez pas le gérer froidement.
Non, on peut pas.
C'est pas possible.
Mais c'est pas froid. L'empathie, c'est pas froid. Mais à un moment donné,
il est obligé de se détacher, sinon il n'arrive pas à guérir. C'est sûr.
Mais il est sensible.
Voilà. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience. Okay. Je disais, après on va aller dans les mots, que le rabbi Rachab explique, le rabbi Safitra qui explique.
Une éponge, il devient malade comme lui.
Oui, on peut pas traiter, on est obligé de prendre du recul. Vous avez raison.
Bien sûr. Si tu es une éponge, tu deviens malade comme ton patient.
Un obligé.
Donc tu es obligé, à un moment donné.
Ça m'arrive toutes les quelques semaines d'aller, par exemple, à l'hôpital psychiatrique là-bas.
Ah bah.
Ici, qui est au coin de la rue.
Non, ici.
Ouais. À 200 mètres d'ici. D'accord? Ça m'arrive d'aller là-bas. Ben, alors, au début, c'était, il y a des juifs. D'accord? Au début, c'était.
Il y a des juifs.
Au début, c'était très difficile.
Si tu fais pas attention, l'éponge que tu es, mais tu sors.
T'es affecté. Bien sûr que t'es affecté.
C'est lourd.
Bien sûr, c'est lourd.
Rapporté quand tu es.
Donc, je disais, Rabotel, s'explique le rabbi Yosef Yitzhak.
Au bout d'un moment, du coup.
Allez, on y va, reprendre. Ce qu'explique Rabbi Yosef Yitzhak, c'est que le plus dur, ce qui nous manque aujourd'hui le plus, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la simat lev. Simat lev, ça prête attention. Et justement, il explique ça dans un mamar qui parle de Rosh Hashanah. Ça veut dire, il dit.
Quand tu dis simatlev.
Ça veut dire prêter attention.
Oui, c'est, mais l'expression en français, c'est y mettre du cœur.
C'est-à-dire oui.
Carrément dedans.
Mettre du cœur, oui. Même en Israël, lorsque vous allez en Israël, c'est simulev, prêter attention. Ah. Ça veut dire comme ça, t'as un message, tu vois, moi, t'as 50 lignes, et à un moment, on te dit simulev, prêter attention. Pourquoi tu nous prêtes attention? Ça laisse entendre que quoi? Ça laisse entendre. Non, mais attends, c'est intéressant, parce que deux choses l'une. Soit tu me dis que j'ai lu tout le texte, dans ce cas-là, je fais attention à tout. Alors, pourquoi tu nous prêtes attention? Pourquoi tu veux que je regarde cette ligne plus que les autres? Parce qu'en vérité, on sait ce qui se passe. T'as 50 lignes devant toi. Tu vas aller lire les 50 lignes. Mais tu vas prêter attention à aucune. C'est pour ça, on te dit, tu lis 50 lignes, tu lis un mode d'emploi manuel, à un moment, on te dit, prêtez attention. Là, tu sais que c'est pas juste de l'information. Il y a quelque chose d'important. Que ça passe, tam, tu dois le lire. Tu dois bien le regarder. Simulev, prêtez attention.
Faut le mettre au début, dans ce cas-là, pas là.
Pas forcément. Non, non. On te le met en rouge pour te dire prête attention.
Quand tu lis un truc et ça,
donné, voilà. Pour te dire, tu aurais pu te dire, je sais que tu vas tout lire, et je sais qu'on pourra t'interroger, tu répondras, mais il y a peut-être des choses que tu vas lire sans prêter attention. Ce qui est la majorité des choses qu'on lit. On prête pas attention. C'est pour ça qu'on te dit, attention, ça c'est important. Et le Rabbi Sefita dans ce mamar, il dit que justement, ça ne sera pas avec la teshuva de Elul et de Rosh Hashanah. Parce que, encore une fois, c'est le même problème. Des informations, on en entend beaucoup. On sait qu'on va être jugé, on sait que toute l'année dépend. On entend ça. Mais est-ce qu'on prête vraiment attention à ça? Est-ce qu'on comprend que dans quelques jours, d'accord, dans moins de 10 jours, il y a un jugement dans lequel notre année va être décidée? Sérieusement, c'est pas bon, toutes les façons on récupérera, toutes les façons il s'arrangera pour. C'est sérieux.
Ouais, mais on n'a aucune action, on peut rien faire.
Bien sûr qu'on peut. On peut se reprendre, on peut.
Quel jugé que je peux faire, ça ouais, change rien.
Mais si je vais voir le juge en montrant que je me suis repris. Le juge peut me faire circonstance atténuante. Mais si je veux voir le juge avec les lunettes comme ça, les lunettes de soleil, et je le regarde tout bronzé comme ça, et je viens comme une fraîcheur, je vais dire, monsieur, d'où vous venez là?
Si l'on veut une remise,
je viens de Saint-Barth. D'où vous venez, monsieur?
Est-ce que c'est comme un match de foot, 5 dernières minutes, si je marque un but, j'ai gagné?
Non, c'est pas, non. Ce qu'on veut juste, c'est que tu réalises. C'est tout ce qu'on veut.
Mais si tu fais...
On veut que tu réalises. Le bonhomme, il est là. Vous savez, c'est...
Mais qui met le paquet.
Vous savez, c'est quoi le pire? D'accord.
Ça marche.
Vous savez, des fois, ils vous montrent des jugements de terroristes, ils marchaient même, qui sont faits arrêter. Et tu les vois, parce que ce qui me tue le plus. Tu les vois, il est au jugement, il est en train de sourire. Mais c'est, quelque part, c'est encore pire que l'attentat, ça. Il s'en fiche. Ils s'en fichent de toi. Il n'a rien à faire. Ils te montrent, j'en ai rien à faire.
Ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils ont fait.
Ça, je sais pas, mais bon.
Je crois qu'ils n'ont même pas conscience.
Il fait exprès, il n'a hein rien à faire. Il n'a rien à faire. Il ne prend pas conscience. Et ça, c'est la pire des choses, ça. Que tu me dises qu'il a eu un élan de folie. Bon, un élan de folie, tout le monde peut en avoir. Enfin, c'est un peu chaud quand même. Mais le gars, il n'en a rien à faire. C'est-à-dire que même un mois après, deux mois après, six mois après, il n'en a rien à faire. Il rigole. Comment tu peux être comme ça, chamichement? Et c'est ça ce qui nous manque, c'est le simatlev. Alors, bien sûr, dans une mesure moindre, évidemment, la même façon, on te dit, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est d'éveiller la simatlev et de nous aider à, justement, réaliser les choses. Pas seulement apprendre les choses, pas seulement ressentir les choses, mais carrément les réaliser, prendre conscience, et automatiquement, quand on prend conscience, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Alors on va tout de suite avancer, parce que sinon on peut parler encore, hein, c'est un sujet passionnant ça. Alors, Ve'odzot, page 256. Ve'odzot, Ve'yeteralka. Donc rappelez-vous, on cherche à définir maintenant quel est le rôle de Moïse. Il y a un petit Moïse qui est en nous, et il y a un grand Moïse qui est le rabbi. D'accord? Ou un rabbi qui est là pour t'aider justement à prendre conscience. Quand tu n'arrives pas à prendre conscience, il va t'aider à prendre conscience. Alors on va expliquer. Ve'odzot, et encore ça, yeter alken, plus que ça, b'chol dor vador, dans chaque génération, yordin nitzotzot min nishmat Moshe Rabbeinu alav shalom, descend des étincelles de l'âme de Moïse, ou mil tlabshim begouf va nefesh, et ces étincelles de l'âme de Moïse s'habillent dans le corps et dans l'âme des sages de la génération, qui sont d'ailleurs appelés Aene Aïda, les yeux de l'assemblée. D'accord? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, on aurait pu penser que Moïse, c'est un événement qui s'est passé, ça fait 3300 ans, et que c'est passé. C'est terminé. C'est terminé. C'est vrai. Des gens, tu leur dis, qu'est-ce que toi, qui t'aurais aimé rencontrer? Tu dis, moi, j'aurais aimé rencontrer Moïse. Ça aurait été sympa de rencontrer Moïse. Vous imaginez?
Quelle rencontre?
Tu imagines, toi, on te propose de rencontrer Moïse. Waouh. Moïse, en plein désert comme ça, tchac. D'accord? Ne regardez pas l'acteur qui
représente. Le
Lancaster,
pas le.
Le vrai.
Le vrai, le petit. Ah, Charlton Heston.
Pour rencontrer les petits mots, déjà, j'ai une quête à Charlton Heston. Dans le mois de Elul.
Vous avez vu, c'est pour ça, je regarde pas de film. Et même si ce film-là, je sais pas s'il est caché ou pas, même si c'est caché, j'ai pas envie de le voir. Parce que je me dis, si je vais le voir, après, dès que je vais imaginer Moïse, je vais imaginer.
C'était tellement bien fait. Ouais. Tellement bien fait.
Ah, mais vous savez qui paraît, c'est M. Bizou qui m'a dit ça. Il m'a dit que tellement il a incarné son rôle,
oui.
En général, un acteur, quand il incarne un rôle, après le film, il arrive à sortir du rôle, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais là, tellement il a incarné ce rôle que jusqu'à la fin de sa vie, il était un peu zinzin. Il restait un peu comme ça, il se sent un peu Moïse.
Mais enchaîné après avec Bénure.
Ah, mais c'est Moïse. Moïse, qui incarne Moïse. Mais pas combien de temps il dure le film, je vois pas quoi.
3h40.
C'est énorme. Bon, ok. Alors reprenons. Imaginez qu'on vous donne la possibilité de rencontrer Moïse. D'accord, de rencontrer Moïse. C'est énorme. Mais Moïse, un événement qui s'est passé, ça fait 3300, c'est terminé. Qu'est-ce que tu dis le soir? Le soir, il te dit qu'en vérité, il y a des étincelles de l'âme de Moshe Rabbeinu, ça veut dire des bribes comme ça de l'âme de Moshe Rabbeinu, qui sont éparpillées dans chaque génération. Dans chaque génération, chez les sages de la génération, ils ont en eux l'âme de Moshe Rabbeinu. Et pas seulement dans leur corps, dans leur âme, pardon, même dans leur corps. Ça veut dire qu'ils ont des réactions similaires à Moïse. C'est intéressant. Alors, en vérité, il aurait été intéressant de comparer les deux, mais je connais pas Moïse.
On n'a pas
le référentiel. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit chez les chassidim qu'un homme ne peut pas épancher sa soif de regarder un rabbi, parce qu'un rabbi c'est comme Moïse. Un tzaddik c'est comme Moïse. Il est écrit dans le texte Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. Tes yeux vont regarder ton maître. Juste tu regardes un tzaddik, juste tu le regardes, t'es déjà bien. Pourquoi? Parce qu'il a en lui l'étincelle de Moshe Rabbeinu. On l'appelle Ein Aïda, les yeux de la génération. Pourquoi c'est très important de dire que le sage est comparé à Moïse? Parce que rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Moïse est la tige médiane de la menorah. La tige qui parle à tout le monde. C'est ça le rôle d'un tzaddik. Le rôle d'un tzaddik, c'est pas de dire, moi je suis dans ma maison d'études, s'il y en a qui viennent qui correspondent à mon style, tant mieux. S'ils correspondent pas, tant pis. Ça c'est pas bon ça. Parce que Moïse n'était pas comme ça. Moïse, il n'a pas dit, moi je fais sortir, celui qui veut il vient, et celui qui est dans mon style il vient, celui qui n'est pas dans mon style, du type Korach et les autres d'Atan Aviram, dégage. Non, Moïse n'est pas comme ça. Moïse, si on l'avait demandé d'avoir un peuple juif sur commande, je vous garantis que je ne sais pas s'il aurait choisi ce qu'il a reçu. Il aurait choisi peut-être d'autres profils. Mais moi, Moshe Rabbeinu, il réfléchit pas comme ça. Il dit, moi je suis la ligne médiane, je suis là, je prends ce qu'il y a, et chacun qui est là, je vais essayer de me poser la question de comment je vais l'attacher davantage à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ça le rôle d'un tzaddik. Le rôle d'un tzaddik de la génération, c'est qu'il se pose la question, comment je peux améliorer la émouna du juif qui est en face de moi? Le problème, c'est que c'est compliqué, parce que le juif qui est en face de toi, il faut parler dans son langage. C'est quelqu'un qui est plutôt simplé. Alors, il faut lui parler dans un langage simplé. Il faut l'appeler avec des choses qui vont le faire s'enflammer, etc. Si tu as en face de toi un juif intellectuel, et tu vas commencer à vouloir l'enflammer, il va pas te calculer. Ben, il va dire, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Il croit qu'il va enflammer avec l'histoire de grand-mère. C'est-à-dire que la même histoire que tu as racontée à l'autre qui a marché, pour l'intellectuel, ça marche pas. Tu obtiens l'effet contraire. Donc, tu es obligé d'adapter. À l'intellectuel, il faut lui trouver une façon de toucher son côté intellectuel, etc., etc. À un enfant, un adulte. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu, il était capable de parler à n'importe quelle personne.
Comme Shlomo Ameler.
Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on voyait Moshe Rabbeinu, et lorsqu'on verra Mashiach, d'accord? Il y a une bénédiction spéciale à faire. C'est quoi la bénédiction? C'est la bénédiction qu'on appelle Chacham Arazim. Littéralement, ça nous donne le sage qui connaît les secrets. Parce que regardez, lorsque vous voyez Moshe Rabbeinu qui va gérer par exemple 600 000 personnes. 600 000 personnes, c'est 600 000 façons différentes de voir les choses. Normalement, c'est impossible de comprendre 600 000 personnes. D'accord? En général, on arrive à comprendre les gens qui sont du même style que nous. On arrive à communiquer avec eux, donc on arrive à les comprendre un petit peu. Mais je peux pas comprendre tous les styles de personnes, c'est impossible. C'est divin, ça. Il n'y a que Dieu qui peut être comme ça. Dieu a donné une partie de cette capacité à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu l'a donné en héritage à tous les sages de la génération. Il faut savoir que c'est divin. Normalement, c'est impossible. Logiquement parlant, si on suit la nature, c'est impossible de pouvoir communiquer et s'attacher avec tellement de personnes, tellement de styles différents. C'est pas possible. Seulement, Moshe Rabbeinu, il a hérité ça. Dieu lui a donné ça. Il lui a dit, comme moi je suis comme ça, et que toi tu as besoin de ça pour réussir ton rôle, je te donne cette capacité, Chacham Arazim. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il y a une bénédiction spéciale. Lorsque Moshe va venir très bientôt, on va réciter une bénédiction. Vous savez qu'il y a 7 bénédictions qu'on récitera lorsque Mashiach viendra. Shechianu, Mekiemanu, Shechianu, depuis le temps, d'accord. On récitera aussi la bénédiction Mechayametim, parce que bon, depuis le temps, d'accord. On récitera aussi la bénédiction Shechalak Mechormato le Bassar Vadam, que Dieu a donné de sa sagesse aux hommes en chair en os. On récitera aussi la bénédiction, je crois que c'est Anoten Shenatan Mirvodo le Bassar Vadam, la bénédiction qu'on fait devant les rois, que Dieu l'a donné de son honneur au roi. On récitera aussi les bénédictions Chacham Arazim, parce que le Mashiach sera un sage qui sera capable de comprendre les secrets de tout le monde. Il y a encore deux autres qui m'échappent. Ça veut dire que c'est pas stam. C'est... En vérité, dans chaque tzaddik de la génération, il y a un petit peu de ça. Pas comme Mashiach, d'accord, mais il y a un petit peu de ça. Et ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Donc on va lire dans les mots. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu et des chefs de la génération, c'est quoi? C'est d'aider les gens à réaliser et à prendre conscience de ce qu'ils connaissent. D'accord? C'est pour ça, vous savez, le Rav Sendel, dans son commentaire, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, quand on analyse l'histoire du chassidisme, il y a beaucoup de rabbis. D'accord? Baal Shem Tov, il a eu beaucoup de chassidim, et chacun de ces chassidim est devenu rabbi, c'est ce qu'il a demandé. Maintenant, lorsqu'on analyse l'histoire des rabbis, je vais peut-être vous surprendre, mais il y avait des rabbis qui ne savaient pas étudier. Mais oui, il y avait des dynasties chassidiques où il y avait des rabbis qui ne savaient pas étudier. Ou plus que ça, il y avait des rabbis qui savaient étudier parfaitement, mais qui n'ont jamais enseigné un mot de Torah à leurs élèves. Alors quoi, c'est quoi leurs élèves?
C'est quoi la mitzvah?
Deux secondes. Ils disaient, vous voulez étudier la Torah, il y a le Rosh Hashiva qui est là-bas, il va vous enseigner la Torah. Donc à quoi il servait le rabbi de cette dynastie chassidique? Le rabbi de cette dynastie chassidique, il était là pour raffermir la Emouna, et lui, par exemple, il y avait des rabbis qui faisaient que chanter avec leur chassidim. C'est tout, chanter. Ils se rassemblaient, ils chantaient, après chacun enregistrait. Et après, ils étaient repartis pour un tour, et c'était comme ça, leur Emouna était raffermie. Alors, nous, dans la Chassidut Rabat, c'est pas comme ça. Parce que dans la Chassidut Rabat, l'Admor HaZaken Rabbi Shlomo Zalman, dont nous avons célébré l'anniversaire Shabbat, il a déclaré dès le départ, il a dit que la particularité de la Chassidut Rabat, c'est que tout devrait être expliqué. Il a dit, c'est particulier. Mais sachez que pas tout le monde est comme ça. Il y a d'autres Chassidut dans lesquels le Rabbi n'a jamais enseigné un mot de Torah. Et c'est bien comme ça.
Quand il dit tout, ça veut dire.
Quoi?
Quand il dit tout devrait être expliqué.
Tout, ça veut dire on fera un effort pour expliquer. Et des choses on peut pas comprendre. En tout cas, on fait appel au cerveau. Après, il faut suivre. Après, le cerveau, il doit suivre. Des fois, le cerveau, il suit pas. C'est notre problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant quand même, dans ce que dit le Rav Sendel. Comment ça se fait? Comment c'est possible, ça? Et même le Baal Shem Tov, regardez le Baal Shem Tov. Quand on voit l'histoire du Baal Shem Tov, vous savez que dans la tête de beaucoup de gens, beaucoup d'historiens aujourd'hui pensent, et c'est une grave erreur, et d'ailleurs c'est maintenant le moment de rectifier cette erreur, beaucoup d'historiens pensent que le Baal Shem Tov était quelqu'un de simplet. C'est quelqu'un qui chauffait les foules, quoi. C'était un... Comment on appelle ça? Voilà, bon, il était là, il savait toucher les gens simples. D'accord? Hein? Il y a beaucoup de gens qui... Beaucoup d'historiens pensent comme ça aujourd'hui. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Le Baal Shem Tov savait parler aux gens simples. C'est-à-dire les gens simples qui étaient délaissés par la société, le Baal Shem Tov, il savait les rassembler dans les places de marché, et il savait raffermir leur émouna. Seulement, ce que les historiens ne savent pas ou ne veulent pas savoir, c'est que le Baal Shem Tov est un très très grand Talmid Chacham. Et que tous ses élèves, comme il les a eus, qui sont des génies, parce qu'on voit les élèves qu'il a eus. Il suffit de voir. C'est vrai que le Baal Shem Tov a laissé très peu d'écrits, il n'a pas laissé d'écrits du tout même, on a laissé des enseignements. Mais quand on voit les élèves qu'il a eus, et on voit les enseignements qu'ils nous ont laissés, ils n'ont pas inventé ça de nulle part. Et c'est des enseignements très puissants. Des fois, une ou deux lignes qu'on prend des années pour comprendre. Seulement, le Baal Shem Tov, lui, sa façon de parler avec le peuple, c'était, il restait simple. Ça veut dire qu'il leur dit une petite phrase. Si vous savez, il y a un Dieu, il est là, il vous aime, etc. Des phrases comme ça, et les gens, ça leur parlait grave, parce que personne ne leur avait parlé comme ça. Alors voilà. Tu dis, attends, le Baal Shem Tov, quand même, Baal Shem Tov, avec l'envergure de la connaissance, de tout ce qu'il connaissait, il aurait pu leur faire un cours magistral. Non. Baal Shem Tov considérait que son rôle à ce moment-là, c'était de raffermir la Emouna et d'aider à ces gens simples à prendre conscience de ce qu'ils font. Et par exemple, qu'est-ce qu'il leur faisait? Vous savez, c'est des gens simples qui savaient à peine lire. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils ne savaient même pas étudier. Il allait à la synagogue, quand il y avait un peu de temps, il était sincère, il ne voulait pas perdre le temps. Il prenait un livre de Tehillim, mais il lisait avec plein de fautes. Il lisait les Tehillim avec plein de fautes. Alors les érudits qui passaient à côté, excusez-moi du terme, mais ils se foutaient d'eux, ils se moquaient d'eux, quoi. Ils leur disaient, mais attendez, d'abord vous ne savez pas étudier, en plus vous lisez avec plein de fautes. Taisez-vous, c'est mieux.
D'accord.
Et du coup, c'est ce qui se passait. Et le Baal Shem Tov, il est venu.
Même avec des fautes,
le Baal Shem Tov, il est venu. Il a rassemblé ces gens simples, il leur a dit, vous n'avez pas idée à quel point Dieu aime vos Tehillim plus que l'étude des autres. Donc bien sûr, ces choses-là, ça chauffe les foules. Mais de là à dire que le Baal Shem Tov était Chas V'Shalom, quelqu'un de simplet, et que le Baal Shem Tov ne connaissait pas étudier, Chassé Shalom parlait comme ça. Seulement, le Baal Shem Tov a estimé que le besoin de l'époque n'était pas d'être encore une yeshiva dans laquelle on va enseigner encore la Torah. Il a considéré que le besoin de l'époque était d'aider les gens, ces gens simples, notamment, et aussi d'autres personnes, à prendre conscience qu'ils sont importants pour Dieu. Ils sont pas délaissés par la société, que Dieu attend de voir leur Tehillim, attend d'écouter leur Tehillim. Ça, c'est le Baal Shem Tov. Parce qu'encore une fois, le Baal Shem Tov, il a joué son rôle de Moïse.
Mais en même temps, ça paraît pas être une notion une grande découverte. Ça aurait pu être fait bien avant. De dire, tiens, la fila, elle peut être entendue par tout le monde.
Oui, mais sur le sens. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, avec le temps, et c'est bien avant le Baal Shem Tov, progressivement, les érudits se sont regroupés entre eux, voilà. Et les ignorants étaient entre eux. Voilà. Or, quand tu mets un ignorant avec un ignorant, ça te crée un ignorant. Et son enfant n'a pratiquement aucune chance d'être un savant. À moins que ce soit un génie hors du commun qui a décidé de sortir de l'eau.
Même si c'est un génie,
s'il n'a pas accès au savoir, il ne peut pas connaître. Et c'est ce qui se passait. Ça veut dire qu'on faisait des générations d'illettrés. Des générations. Ça veut dire que le sage de la communauté, c'est celui qui savait lire. Tu vois, et les autres, bon, celui qui savait le mieux lire, dit, bon, t'es notre rabbin, vas-y, dis-nous.
Ça avance pas quand tu mets l'enfant les...
Et c'est là que le Baal Shem Tov est venu. Et alors, vous savez, après, on peut tout justifier. Oui, exactement. Après, les érudits se moquaient des illettrés. Et en général, ce qui se passait, c'est que les illettrés aussi se moquaient des érudits. Ils se moquaient, et donc il y avait les insultes par-ci, par-là, ils se mariaient entre eux, d'accord, etc. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de communication. Et celui qui a fait une rupture, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle il a été critiqué, c'est qui? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est venu, il a fait une rupture. Il a dit, non, il faut marier la communauté. C'était une rupture, ça. C'était une rupture. Alors c'est vrai que dans le monde sfarad, on n'a pas été touché par ça. Pratiquement pas, d'accord. Dans le monde ashkenaz, c'était un... Hein? Quoi? Non, non. Ça c'est faux. Ça.
Non, non.
Non, mais dans le monde sfarad, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ce problème.
Parce que le monde des yeshivot, c'était le monde ashkenaz.
C'est vrai.
C'est-à-dire que le monde, c'est le monde...
Donc c'est difficile de dire que le Baal Shem Tov était ignorant. Chassé Shalom.
Oui,
vous savez, on dit que le Baal Shem Tov, lorsqu'il étudiait une page de Gemara dans sa yeshiva, et tous les jours il étudiait une page de la Gemara avec ses élèves à l'yeshiva, on dit que voilà comment il étudiait. D'abord, il étudiait avec ses élèves. D'accord. Il prenait Gemara, Rashi, Tosfot et le commentateur classique. D'accord. Ensuite, il leur posait plein de questions pour leur montrer qu'on n'a rien compris. Et ensuite, il leur disait, maintenant, je vais vous montrer comment on étudie cette même page de Gemara en haut, dans le ciel. Dommage que ça n'a pas été consigné par écrit, ça, parce que c'est... Et il leur reprenait la même page de Gemara, tu vois, et il leur expliquait comment on utilise cette page de Gemara dans le ciel. Et automatiquement, toutes les réponses étaient répondues. Vous savez le niveau que c'est. On dit que tous les génies qui venaient, c'était tellement nouveau pour eux qu'ils pouvaient pas partir. Seulement le problème, c'est que tous ceux qui sont opposés au Baal Shem Tov, ils lui laissaient même pas l'occasion de se défendre. Directement, ils disaient, ah, c'est un simplet, il est parti prendre les simplets, etc. C'est un populiste. Chassé Shalom parlait comme ça. Mais c'est ce qu'il voyait. Parce que le Baal Shem Tov considérait qu'il fallait raffermir la émouna des gens. Et pour raffermir la émouna des gens, il fallait parler dans leur langage. Donc, si c'est quelqu'un de simplet, parle-lui comme un simplet. C'est comme ça qu'il faut lui parler. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Parce que le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de nous aider à prendre conscience. Au fond de nous, nous avons un petit Moshe Rabbeinu aussi qui nous aide à prendre conscience. Chacun de nous. Qu'on soit ignorant, qu'on soit savant, chacun de nous a un petit Moshe Rabbeinu qui nous aide à prendre conscience de ce qu'on est. Seulement, des fois, ce petit Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas à se réveiller. Alors, comment tu fais quand tu n'arrives pas à enclencher un petit moteur? Il faut un gros moteur par derrière. T'as une petite batterie, elle est là, elle n'arrive pas à démarrer. Qu'est-ce que tu fais? Alors, t'amènes une grosse batterie, elle est là. Et après, une fois que la grosse batterie est enclenchée, après, c'est parti. C'est ça le rôle d'un tzadik. Le rôle d'un tzadik, il est là pour te donner, pour t'allumer. T'allumer dans le sens allumé, hein, un allumage, d'accord. C'est comme le Yehuda Avneri, c'était un l'ambassadeur,
un allumeur,
d'accord. C'était un des ambassadeurs d'Israël aux États-Unis. Et au début, il s'était attaché diplomatique, etc. Bon. Et il a raconté qu'une fois, hein, il était chez le rabbi. Et bon, vous savez, des fois, les gens comme ça, ils osent poser des questions qu'un chassid n'aurait jamais osé poser. Il a posé la question au rabbi. Il a dit, quel est le rôle d'un rabbi? Je sais pas si vous imaginez, il va voir le rabbi, tu vois, et il lui dit, à quoi tu sers, quoi.
La provocation.
Non, mais il a posé, moi, c'est un Israélien, attention, Israélien, Israélien, il pose des questions, d'accord, il n'hésite pas. Alors, Slicha, l'Israélim, hein. Alors il a posé la question. Alors le rabbi l'a dit. Le rabbi l'a dit. Mon rôle, d'accord. Mon rôle, c'est de faire en sorte que c'est de faire en sorte de raffermir la émouna des gens. C'est mon rôle, d'accord. Alors donc lui, bon, il parle, etc. Et à la fin de la discussion, Yehuda Avneri pose la question au rabbi. Il lui dit, rabbi, ah bon, après tout ce qu'on a parlé, est-ce que vous pouvez allumer ma neshama? Alors le rabbi lui a répondu, il a dit, moi je t'ai donné l'allumette. Maintenant c'est à toi d'allumer. C'est une réponse que je trouve très puissante. Non, c'est pas pour scotcher, c'est pas juste pour avoir du répondant.
C'est-à-dire qu'on peut pas faire tout le
chemin. Ça veut dire, je peux pas faire ton travail à ta place. Tout ce que je peux faire, c'est te donner l'allumette qui va t'aider à prendre conscience. Mais si tu décides de ne pas prendre conscience, ça marchera pas. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose qui m'a même étonné. Il m'a dit, tu sais, quand il m'a dit, j'étais chez le Ravi. Il était là-bas chez le Ravi pendant plusieurs années. Il était élève de Yeshiva là-bas. Il m'a dit, je vais te surprendre. Vous voyez, tu sais, dans l'année, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Mais il y avait des gens, ils venaient chez le Ravi, ça leur faisait rien. D'accord. Ça veut dire qu'ils venaient, par curiosité, ils rentraient, ils sortaient, ça leur faisait rien. Pourquoi? Comment ça se fait? Après, des fois, ils revenaient et ça leur faisait. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'ils se faisaient une carapace et ils voulaient pas se laisser, justement, prendre conscience. Quand tu te mets une carapace, tu dis, je vais rincer un endroit, mais j'ai quelqu'un qui a essayé de me bourrer le crâne, il faut être attention, c'est un gourou, il crase shalom, d'accord? Faut pas tomber. Bon, bah, écoute, tu peux pas te laisser réveiller. Prendre conscience, bah, tu prendras pas conscience. Personne pourra te réveiller. Oui, mais bon, ça faisait partie des séjours, des parcours touristiques, etc. Bon, d'accord. C'est comme ça. C'est comme à l'époque, quand on disait, quand t'étais à New York, ne pas aller à la synagogue du Rabbi de Lubavitch, c'était comme si tu disais, ne pas être parti sur le pont de Brooklyn. Il y avait beaucoup de guides touristiques, surtout pour les juifs, quoi. Là, tu peux pas ne pas aller là-bas. Bon, il y va. C'est une destination touristique. Et il a vu. Justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, même le plus grand sadique ne peut pas te faire prendre conscience. Il peut t'aider à prendre conscience. Il peut te faire certaines choses. Il peut t'encourager avec une parole, avec un chant, avec une idée, mais il peut pas te prendre conscience de ta place. Ça, il y a que toi qui peux le faire. Et c'est exact ce que Moshe Rabbeinu nous dit aux enfants d'Israël. Il leur dit, personne pourra prendre conscience à votre place. Personne. Ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour, personne. C'est ce qu'on essaye de faire. On espère. La vérité, on espère que Rosh Hashanah, Kippour, le mois de Loul, on espère qu'à un moment, il y a un déclic, que je réalise qu'il faut faire teshuva. Il faut revenir. Et qu'on parle de moi. On parle pas de, c'est pas un texte écrit dans les livres qu'il faut faire teshuva. C'est je dois faire teshuva. On parle de moi ici. C'est moi qui dois faire teshuva. Sur ce que je fais. On parle de moi. Et des fois, ça prend des années, des années, des années avant de prendre conscience. Prise de conscience, c'est un travail qui peut prendre des années. Qui dit ici. Alors, je continue. Il dit, Donc, qui a Avodah chez Balev, je suis à la, 257 en haut. Donc, le rôle de Moshe Rabbeinu, l'élamed d'arat et ta'am, pour enseigner la connaissance au peuple. Pourquoi? Veleidak doulat Hashem, pour prendre conscience de la grandeur de Dieu, ou les ovdo belev ve nefesh. Et pour servir Dieu avec cœur et âme. Pourquoi? Qui a Avodah chez Balev, il est fiadat. Très important ce qu'il dit ici. Ça, c'est une base de la chassidut rabbah, ce qu'on va expliquer. Le service du cœur dépend de la connaissance. Ça veut dire comme ça. Et les gens qui pensent, ils disent, moi, j'ai pas besoin de prendre conscience. Moi, il suffit que tu me chauffes, tu m'allumes, tu mets dans une salle dans laquelle il y a 5000 chassidim qui vont chanter, et je vais décoller. Mon cœur va vibrer. Bien que j'ai pas pris conscience dans ma tête, mon cœur va vibrer. Réponse de l'Admor HaZaken, il te dit, même si tu crois que ton cœur a vibré, ton cœur n'a pas vibré.
Faut la chorma.
Si t'as pas pris conscience, tu crois que t'as vibré parce que c'est beau, c'est passionnant. Tu vas sortir, c'est comme si que ça rien passé.
C'est
dur à dire, mais c'est la vérité. Tu peux passer un Rosh Hashanah qui pour magnifique, avec des chants, avec des piaques, etc. Tu dis, ouais, j'ai passé un super qui pour. Le lendemain, c'est comme si de rien n'était. Si tu n'as pas le date, tu n'as pas la prise de conscience dans ta tête, c'est comme si que ça rien passé. C'est très fort ce qu'il a de Morazak ici. Il dit que la avoda sheba lev, le service du cœur, dépend du da'at, dépend de la connaissance. C'est ça le rôle d'un Moshe Rabbeinu. Le rôle d'un Moshe Rabbeinu, c'est de t'aider à prendre conscience. Parce que si tu ne prends pas conscience, t'as beau vibrer comme tu veux, ça ne fera rien du tout. Que Moshe Katouf, comme il est écrit, dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, il est écrit, Da et Elokei Avicha, Veovdehu, Belev Shalev, Venefesh Rafetza. Dans les chroniques, il est écrit comme ça. Dans le tome 1 des chroniques, c'est un des 24 livres de la Bible, il est écrit. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur entier. Regardez bien l'ordre du verset. Il te dit, connais le Dieu de ton père, connais avec ta tête et sers-le d'un cœur entier. Comment tu mélanges les genres? Connais, c'est la connaissance, c'est la tête. Servir le cœur, c'est le cœur. Comment on peut mélanger la connaissance qui est l'intellect et les sentiments? Comment tu mets les deux dans le même panier? Ça n'a rien à voir. Réponse de Morazakin, bien sûr que ça a à voir. Les sentiments que tu auras dans ton cœur, les vrais sentiments, vont dépendre de la connaissance que tu as eue. Et même si tu crois que tu as eu des sentiments, c'est faux. Si tu n'as pas de prise de conscience, tu n'as pas de sentiments. Alors, tu crois que tu as senti, tu n'as rien senti du tout.
Les émotions qu'on a eues à ce moment-là, ça ne compte pas.
Si. Ça vaut rien.
T'as chanté,
c'est bien bon.
Si, mais
c'est rien.
Si t'as conscience qui crée ton émotion.
Ce qu'il faut à un moment, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Si tu prends pas conscience, si tu te laisses emporter par la foule, la même foule qui t'a emporté, tu vas sortir dehors, il y aura une autre foule qui va t'emporter.
Si tu veux que le texte que tu lis.
Il y a Irma, il y a José, c'est pas un problème.
Il y a aussi l'autre.
J'ai noté un témoin pour témoigner ce qui est arrivé donc à Miami.
Un témoin, un homme quoi, oui.
Il était là-bas, ouais. Je ne sais pas si c'était un noir, un blanc, un juif, enfin. Il a dit, je crois en Dieu, j'ai prié Dieu et j'ai été sauvé.
Bien.
En direct.
Bon, t'as même ce qui va dire, Mère Nature m'a sauvé.
Non, je ne sais pas.
C'est bien.
Il a dit, je crois en Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai été sauvé.
C'est bien, c'est bien. Il a pris conscience.
Exactement, voilà. la tempête, elle n'a pas été chez moi, elle a été chez les autres.
Mais je vais vous dire,
c'est à la foi, ça.
Ce monsieur qui a parlé, je ne sais pas qui c'est, s'il n'a pas pris conscience, si c'est juste quelque chose qu'il a vécu, un sentiment qu'il a eu, le même sentiment qu'il a vécu, il peut être couvert demain par autre chose, et demain il peut dire, ouais, bon, je disais ça, mais j'étais sur le feu de l'action, mais en vérité, j'y crois plus.
Oui, parce que là, ça me fait penser à ce qu'une fois le Robin Chasse disait, c'est que si tu relis La Peste de Camus, tout un coup, la maison d'à côté, elle est pleine. Parce que quand les épreuves arrivent, les gens...
Ouais. Oula, il lève les yeux.
Je vais répéter la question.
Voilà.
Tu relis La
Peste de Camus.
La Peste de Camus, c'est ça. C'est plein parce que... La vie
conscience.
Non, pas forcément. Il y a des sentiments qu'on peut avoir.
Parce qu'à un moment donné, devant la crainte,
j'ai prié Dieu,
j'ai
été
sauvé.
Il a eu un ami, qui est mort par un accident de voiture. D'accord? Donc il dit, bon, il a eu un sentiment qui est très fort. Donc il a dit, ça y est, je me range. Deux mois plus tard, il refait un excès de vitesse. Pourquoi? Il a pris conscience ou il n'a pas pris conscience?
C'est comme ça ici.
Il n'a pas pris conscience. Il a eu un sentiment qu'il n'a pas été accompagné d'une prise de conscience. Donc ça ne tient pas. C'est tout.
Mais ça, ce passage.
C'est la réalité.
C'est la réalité.
C'est
pas très raciste.
Ah non, c'est très raciste. Pas du tout, au contraire. Regarde ce qu'il dit.
Non, parce que finalement, tout passe par la connaissance d'abord. Le primum, c'est la connaissance.
Alors là, attention, c'est pas forcément. Là, il dit pas dans le sens connaissance, dans le sens prise de conscience.
Mais pour prendre conscience, il faut aussi comprendre.
Parce que d'un autre côté, et ça c'est très important, on peut avoir aussi un intellectuel qui ne prend pas conscience. Ça veut dire comprendre les choses, ça ne veut pas dire qu'on prend conscience. On peut comprendre sans prendre conscience. On peut ressentir sans prendre conscience. La prise de conscience dans la chassidout, c'est un pont entre l'intellect et les sentiments. Et ce pont, on peut le sauter. Ça veut dire je peux réfléchir à quelque chose, passer au sentiment, sans prendre conscience. Et du coup, ça ne change pas. C'est un pont que je peux décider de... C'est pour ça que c'est très important. Chorma, Bina, Da'at. Da'at, c'est la prise de conscience. L'apport principal de la chassidut Rabad, c'est le fait d'accentuer sur le Da'at, sur la prise de conscience. Que prise de conscience, c'est quelque chose qui prend longtemps à arriver, mais une fois que ça arrive, ça bouge pas.
Et comment on fait?
Il y a un ordre quand même.
Ah, justement. Bien sûr qu'il y a une méthode. Déjà, la méthode, c'est déjà d'aller voir le rabbi.
Il y a une technique.
Bien sûr. Ça change pas. D'aller voir déjà un tzaddik. Quand tu vas voir un tzaddik, le tzaddik. Bah, déjà, moi, je vais vous dire d'aller voir le rabbi.
Non, mais.
Si déjà tu vas voir, va voir le top. Alors.
Tu peux aller à Ouman, si tu veux.
Non, Ouman, c'est différent, tu vois.
Parce que
Ouman, il t'attrape pas le sentiment.
Mais ça marche aussi.
Ça marche autant que ça marche. Ça marche jusqu'à Rosh Hashanah.
Non, il reste.
Bon, c'est un autre débat, ça.
Mendy, il y a quelque chose qui est très important. C'est que dans le Tania, il parle des sages. Oui. Et c'est vrai que c'est pas le top. C'est que, enfin, je veux dire, je pense que pour un racine de Gaulle, c'est son sadique, c'est le rabbin de
Gaulle.
Voilà, c'est pour ça que le top, après, ça, c'est, ça fait partie vraiment des sages. Le texte qui est plus réel.
Moi, je vous présente
le vôtre.
Évidemment.
Mais quand on lit le texte de Tania, il est sage.
Quand on pose la question, est-ce que tu connais un docteur? Ouais. Je vais pas vous parler d'un docteur qui est quelque part que je connais pas. Je vais vous parler du docteur que je connais qui marche et qui fait de l'effet.
Est-ce que conscience, comme tu dis, et prendre sens?
Non, c'est les mêmes, produits. Pas du tout.
C'est produit, pas du tout. Les mêmes choses.
Le sens, c'est la raison.
D'accord, mais quand ça prend
non,
sens.
Non, la conscience, c'est quelque chose.
Ça sauve la vie, la raison.
Ah, pas du tout. La conscience, c'est quelque chose de très particulier. Il y a une zone particulière dans l'âme qui s'appelle la conscience. Qui n'a rien à voir ni avec la compréhension, ni avec les sentiments. C'est la conscience. Prendre conscience. C'est un déclic qui se passe, mais il faut travailler pour ça. Et donc, je disais, avec ça, on comprend le passouk qui dit, dans les chroniques, qui dit, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as pris conscience avec ta connaissance, là, tu peux servir d'un cœur entier. Et d'ailleurs, une des plus belles prophéties messianiques, c'est quoi? On lit dans les mots. Ou les Hatid ou Homer, concernant l'avenir, il est écrit, une des grandes prophéties de Jérémie. Il dit, Velo il medou ish edreeu. À l'avenir, lorsque ma chair viendra, ils ne s'instruiront pas l'un l'autre. Les morts en disant, Deu et Hachem, connaissez l'Éternel. Qui koulam yed ou oti, car tous me connaîtront. C'est-à-dire qu'une des plus, belles prophéties messianiques, c'est quoi? Que lorsque ma chair viendra, on réalisera les choses. Et que comme on prendra conscience de chaque chose, automatiquement, on pourra pas faire une avéra. Tu peux pas faire une avéra. Quand tu prends conscience de la gravité d'une avéra, tu peux pas la faire. Comment il fait de Tserara? Il m'endort. Il dit, oui, bon, c'est vrai que c'est écrit que c'est interdit, mais tu comprends pas.
Donc, il dort pas, donc,
Mais le même Dieu qui t'a mis un filtre, il t'a mis un petit Moshé en toi qui est capable de prendre conscience. Non, le petit Moshé, tu sais comment il vient, le petit Moshé? C'est comme le démarreur. Hier, je pensais à ça parce que j'entendais quelqu'un, il était en train de démarrer sa voiture, il a envoyé au moins 50 coups de démarreur. J'ai dit, messieurs, il va lâcher sa batterie. Non, à la fin, il a fini par démarrer la batterie. Maintenant, tu lui poses la question, tu lui dis, dis-moi, quand tu essayes de démarrer, d'après toi, à combien de coups elle a démarré ta voiture? Je sais pas. Peut-être à 10 coups de démarreur, peut-être à 40 coups, peut-être à 50 coups, peut-être à 80 coups, peut-être à 100 coups, je sais pas.
Non, mais tu peux tuer.
Il peut tuer le démarreur. Il peut tuer sa santé, il peut tuer le moteur. Mais en tout cas, il démarre, c'est tout. Ok? C'est comme ça que ça marche. Et donc, je disais que la plus belle prophétie messianique, c'est quoi? C'est pas que lorsque ma chère va venir, on va vibrer. Non. Lorsque ma chère va venir, on va prendre conscience. Et donc, automatiquement, quand tu prends conscience, automatiquement, tu vibres. Tu peux pas ne pas vibrer. Si tu prends conscience, tu vibres. Oui, allez-y.
Quand le peuple a voulu sortir de l'Égypte.
Alors, non, juste deux secondes. Normalement, on aurait dû refaire la bracha mezonot. Mais comme on était sur le da'at du balabaït, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que David risquait de nous servir. Donc,
ah non, on savait,
non, on recommence pas. Ah, on savait.
Ah oui.
Très bien. Donc, on refait pas. Pardon.
Ouais. Non, je disais, lors de la sortie d'Égypte, oui, on a crié très fort. On avait marre de 210 ans d'esclavage. Il n'y avait personne pour venir nous. Après, Moïse est venu bien après, il n'y avait personne. À ce moment-là, sur qui on a compté? Parce qu'on n'avait pas vu.
Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'on a vu, 10 plaies. Même, non. Même avec les 10 plaies, on n'a pas pris conscience. Vous savez à quel moment on a pris conscience?
Vous
savez à quel moment? Lorsqu'on a traversé la mer Rouge. Là, il est écrit, Vayaminu Bachem Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Il dit, ah ouais, bah, dis donc. Bonjour, hein, ça va? Ça fait un an que ça dure. T'as envoyé 10 plaies, il a retourné la terre entière. Mais dans toutes les 10 plaies, il n'y a pas écrit Vayaminu Bachem Moshe Avdo. Il a fallu la traversée de la mer Rouge avec le grand dévoilement divin unique qu'il y a eu pour que là, enfin, ils ont cru en Dieu et en Moïse.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru, alors pourquoi ils ont sorti?
Non, c'est pas qu'ils n'ont pas cru, c'est qu'avant, c'était...
Ils n'avaient pas la conscience.
Il n'y a pas la conscience. Ah, etc. T'es là, t'es en prison, Dieu, il y a une possibilité de sortir.
Ça veut dire qu'ils n'avaient pas conscience, ça veut dire que déjà, ils étaient durs à cuire, et en plus...
Dans c'est même... Non, les durs à cuire, ils sont restés.
Ils savaient qu'il y avait le veau d'or.
C'est même pas dur à cuire. Combien de fois ça arrive, les situations dans la vie, dans lesquelles on reste passif? C'est pas que je suis dur à cuire. Je me laisse emporter par le courant.
La vague,
il y a une vague. Oh, ben, il y a une vague, il y a des miracles. Il y a une vague, on sort. Maintenant, À un moment, il faut que tu poses la question, tu dis, mais moi, je suis où dans tout ça? Moi, je fais quoi dans tout ça? Qu'est-ce que je fais avec ces millions de personnes? On va où? Où on va comme ça? Ben, il est possible que pendant toute l'année, personne ne s'est posé cette question. Mais dès qu'ils étaient devant le... Et je vais vous dire, vous savez, M. Bellassen, il a parlé Shabbat, il a parlé des convertis. D'accord? En fait, ce qu'il a dit, c'est basé sur un... Ça aussi, le Rav Sénas le ramène. C'est un enseignement extraordinaire d'une personne qu'on appelait le converti Pototsky. C'est un converti extraordinaire qui a fait un retour vers la Teshuvah, d'accord, qui était avant ça, qui avait un poste très très important. Et vous savez qu'à cette époque-là, une personne qui se convertit au judaïsme, il avait la peine de mort. Donc il a connu le Baal Shem Tov, il a connu le Kohen de Vilna, d'ailleurs il a essayé de faire le shalom entre les deux, et bon, ça n'a pas pu se faire, etc. Bon. Et lui, le Grav Pototsky, il s'est sauvé. Il était en fuite pendant toute sa vie. Il a fini par être attrapé, il a été tué. Il a été tué. D'accord. Ah, il était recherché. C'était quelqu'un de très important. C'est comme je vous aurais dit aujourd'hui un ministre qui était recherché. Et lui, il a dit pas mal de choses très intéressantes, des phrases très courtes comme ça, mais très costauds. Il a dit comme ça. Il a posé la question. Il a dit comment ça se fait qu'on voit que il y a des convertis qui rejoignent le peuple juif, mais qu'on voit d'un autre côté qu'il y a des juifs qui quittent le peuple juif.
On peut le quitter.
Voilà. Ah.
Il quitte pas. Mais dans les faits. Il va se marier avec une non-juive, il aura des enfants, donc ça veut dire voilà, que concrètement, c'est perdu.
Oui. Oui, mais c'est
pas... Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que lui, il ne quitte pas, mais concrètement, sa descendance a quitté.
C'est ça.
Chez Daesh.
Hein?
Dernièrement, il y a deux Israéliens ou un Israélien qui sont partis à Daesh.
D'accord, donc ça veut dire quoi? Mais je ne parle pas de lui, je parle de ses enfants. Ça veut dire que c'est une branche qui a été coupée. La branche, elle s'est arrêtée, elle n'a pas continué. D'accord. Alors, il a posé la question, il a dit comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a des branches qui s'accrochent à nous et des branches qui nous quittent? Comment ça se fait? Et il a répondu comme ça. Il a répondu, il a dit parce qu'en vérité, lorsqu'il y a eu le don de la Torah, là je vous donne l'autre partie de ce que M. Bellassen a dit. Il a dit qu'une partie de, lorsqu'il y a eu le don de la Torah, à ce moment-là, il y a eu deux catégories de personnes. Il y a eu des goïms qui étaient, vous savez que le don de la Torah, on dit que dans tout le monde entier on l'a entendu en 70 langues. Il y a eu des goïms qui ont entendu ça et qui ont dit on aurait bien aimé être là-bas. Mais ils n'étaient pas là-bas. Ils ne savaient même pas comment aller, ils ne savaient même pas où c'était, etc. Mais ça leur a parlé. Donc Dieu, il a retenu ça. Il m'a dit, d'accord, tu veux revenir, on s'arrangera pour que dans les générations à venir, toi ou un de tes enfants reviendra. Maintenant, de l'autre côté, écoutez bien ce que je veux dire, il y avait des juifs qui étaient présents à ce moment-là, au don de la Torah, et qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont dit, non, on n'aurait pas voulu être là. Ils disent, bon, on est là parce qu'on est là maintenant, tant pis, je suis là, mais je n'aurais pas voulu être là. C'est la réalité.
A priori, il y en a eu beaucoup.
Ah. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh? Non, attendez. Je parle pas du rêve rave. Je parle des gens qui, au fond de leur cœur, ils ont dit à personne. Mais ils se sont dit, bon, il est bien gentil, Moïse, Dieu, etc. Mais... Dès qu'ils ont entendu, je suis l'éternel, ton Dieu, etc. Voilà, il y a des règles, etc. Ils ont dit, bon. D'accord. La majorité n'était pas dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Dit le Gerbodowski. Kadosh Baruch Hu, il s'est arrangé pour qu'au fil des générations, je me serais permis de le dire, si je l'avais pas lu. Kadosh Baruch Hu, il s'est arrangé pour qu'au fil des générations, ceux qui voulaient nous rejoindre, nous ont rejoints.
C'est difficile à comprendre.
Et ceux qui voulaient nous ont quittés, nous ont quittés.
Mais il n'y avait pas d'autre choix.
Tu veux dire que tous les mariages d'aujourd'hui,
c'est... Je suis pas en train de dire ça. Bon, voilà.
Ils sont prévus.
Tout était joué d'avance.
J'ai pas dit ça.
On distribue les cartes.
Et nous, voilà. On est là pour les ramener.
Ouais. Nous, on est là pour les ramener. Mais si on est là pour les ramener.
On fait les cartes.
Mais tu peux pas ignorer dans les faits, c'est ce qui s'est passé.
Oui,
mais... ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Exactement ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'on peut avoir un juif qui a suivi le courant, qui est sorti d'Égypte, etc., et qui n'a pas pris conscience. Et à un moment, dès qu'il est, il entend Dieu parler, il dit, je suis un étendu, tu feras ci, tu feras ça, il prend conscience, il dit, mais attends, la main, qu'est-ce que je fais là? Mais là, c'est une mauvaise conscience qu'il a pris. Donc ça, c'est pas bon. La bonne conscience, c'est celle que la majorité du peuple juif ont eue. Ils étaient, lorsqu'ils ont traversé la mer et qu'ils ont vu les Égyptiens morts, ils ont dit, ah, on a un Dieu, il est bon et c'est bon, on a envie de suivre.
En même temps, pratiquer la Torah en pleine.
C'est une prise de conscience.
Pratiquer la Torah en pleine galoute, franchement, les.
Non, personne n'a dit que c'est facile. Personne n'a dit que c'est facile. Mais il faut prendre conscience. Prends conscience.
Ils ont peut-être mieux compris que.
Oui. Eux, ils ont pris conscience. Eux, ils ont réalisé. Ils ont dit, attends, mais il nous amène où, celui-là? On va où? Alors, dans le désert, ils disent, non, on va nulle part. Moi, je reste ici, moi. Ils ont pris conscience, au moins. Ils sont restés.
Mais pourquoi ils se posent une telle question? Puisque Dieu, il a proposé la Torah aux 70 nations. Et seul le peuple hébreu, il a accepté. Donc, ils savaient ce qu'il acceptait.
Monsieur Benita.
Oui, monsieur.
Ils ont dit qu'ils ont accepté.
Bah, c'est ce que le texte dit.
Imaginez un commercial qui vous parle. Pardon, un commercial qui vous parle. Et il vous tourne la tête pendant une heure. À la fin, il vous dit, voilà, je vous vois un truc, c'est super, c'est bien pour vous, etc. Vous écoutez, vous comprenez ce qu'il vous dit. À la fin, il dit, voilà, monsieur, c'est ici que vous signez. Et tu signes. Après, le lendemain, tu dis, mais tu prends conscience. Tu dis, mais sur quoi j'ai signé, là?
J'ai oublié telle et telle clause.
Mais il m'a endormi.
Ouais, mais alors, ça devient...
Alors, attendez deux secondes. On va dire, mais quoi, mais t'étais fou, t'as signé.
C'est pour ça qu'il y a un délai rétractation.
T'as signé, non? T'as signé ou t'as pas signé? Non, mais j'ai signé, mais il m'a endormi. Il a pas pris conscience. On a endormi sa conscience. C'est ça?
Mais alors, comment endormir tout un peuple?
Non, justement, j'ai pas dit qu'on endormit tout un peuple. Au contraire, Dieu nous a pas endormis. Dieu a tout fait pour qu'on ne s'endorme pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que j'ai dit oui que ma conscience était là.
On est passé avec tout l'or d'Égypte.
Je peux dire oui, je peux parler. Vous savez qu'il y a des fois des gens qui peuvent vous parler pendant une heure. Ils ont oublié le lendemain qu'ils ont parlé avec vous.
Ça, c'est
mon... Je vous promets, ça m'est déjà arrivé, ça. Quelqu'un, il m'appelle. J'ai passé une heure à parler avec lui. Le lendemain, il me dit, Mendy, il faut que je te parle d'un sujet très important. J'ai dit, bon, de quoi? Il me dit, bah, de ça. Je dis, on a parlé hier. Il dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, allez. Hein. J'ai dit, mais il est où, celui-là? Non, c'est pas Alzheimer. C'est que le gars, il a parlé, mais il n'a pas pris conscience. Non.
Ça veut dire que les 70 nations qui ont refusé, eux, ils ont pris conscience, c'était pas bon.
Bien sûr. On m'a dit, attends, il veut quoi, Dieu? Il veut qu'on vole pas, mais nous, on vit sur ça, nous. Nous, on vole pas, mais on vole.
Oui, mais alors, donc, et puis, vous avez dit l'autre fois que quand on était au Sinaï, Dieu, il a dit qu'il a fait tomber la montagne.
Oui.
Alors, donc...
Non, mais qui peut nous forcer, c'est une chose. Mais ça, monsieur Benita, personne ne pourra vous enlever votre conscience. Même Dieu.
Non, puis, il faut...
Dieu nous a donné ça, et personne n'enlèvera. C'est-à-dire que la conscience, c'est moi qui décide. Ce que je veux prêter attention. Ce que je ne veux pas prêter attention, même s'il y a un tsunami devant moi, si je décide de ne pas prêter attention, eh ben je prendrai pas attention.
Et puis il y a une différence.
C'est la folie.
Aussi, c'est qu'il y a le collectif et l'individuel.
Quand un tsunami devant toi.
Le peuple juif, ça veut dire la majorité. Quoi? Mais ça ne veut pas dire.
Il vaut mieux que tu prennes conscience qu'il est devant toi.
0% d'égoïsme. C'est-à-dire que quand on dit, c'est toujours un problème. C'est que sur un égoïsme, ça ne veut pas dire 100% dans un sens ou dans un autre. Quand on dit, puisque la preuve, il y a des gars qui ont entendu et qui après, voilà. Ça veut dire que, non, mais dans la vie, c'est jamais... Là, on est sur des
non, c'est pas ou tout blanc.
Ouais, bon, pas bon,
non, mais ça veut dire que c'est jamais 100% des gens dans une foule.
Non. On va aller encore quelques lignes, on va s'arrêter.
Dans un sens ou dans l'autre.
Ah, cependant, en bas de la page 257.
Les pressions se passent au niveau de l'individu ou de la collectivité.
Ah. Oui, c'est vraiment quand on nous présente le problème, qu'on voit, ah oui, le mandat,
oui, on doit accepter. Collectivement.
Mais
individuellement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas pris conscience. Mais on dit que normalement, tout le monde a pris conscience à la traversée de la mer. Vous imaginez? Il y a eu 10 plaies, il y en a, ils n'ont pas pris conscience.
Ça veut dire qu'ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas adhéré à tous les
ils ont pas pris conscience.
Miracles qui se sont produits en Égypte. Et c'est ce qui explique peut-être que le cinquième...
Non, c'est pas que... Non, monsieur Benita, excusez-moi de vous reprendre. C'est pas qu'ils n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas pris conscience.
C'est pareil.
Non. Ça veut dire qu'on peut, suivre, on peut adhérer, on peut dire oui, on peut dire c'est sympa. Je peux dire à quelqu'un que je t'aime. Alors qu'en vérité, j'ai pas pris conscience de qui j'ai en face de moi. Je suis pas là, il est pas là le bonhomme.
Oh, c'est trop beau, c'est pas pour nous.
Ok, on continue. Rabotaille, quelques lignes, on s'arrête là. Ah, cependant, en bas de la page 157. Ah, cependant, Ikaradat et Nayedia Levada. L'essentiel du dat, de cette prise de conscience, n'est pas seulement la seule connaissance de Dieu. Chez Yidouk Doulat Hashem, le fait de connaître la grandeur de Dieu, de prendre conscience, et puis s'offrir, ou puis farim, en apprenant par des maîtres, en apprenant par des livres. Le dat, c'est pas seulement la connaissance. Parce que ça, la connaissance, c'est lié à l'intellect. Non. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué. Et la Ikar, ou les Amik Datobik Doulat Hashem. L'essentiel du dat, c'est quoi? C'est le fait de s'immerger profondément. En pensant à la grandeur de Dieu, velit koa marchavto bashem bechozek veomet salev veamoar, et de fixer sa pensée. Ça, tu pourrais répondre à ta question, Michael. Comment on fait pour arriver au dat? Ça vient pas tout seul. Il faut fixer sa pensée sur un sujet et réfléchir profondément et réfléchir, me casser ma tête. Pas attendre que quelqu'un fasse ce boulot à ma place. Personne fera ce boulot à ma place. Moi, me casser ma tête, réfléchir, de penser à Hashem. Achete marchavto mekusheret bashem bekesher chazak veamit. Jusqu'à ce que ma pensée soit attachée à Dieu d'un lien ferme et puissant, que Moshe y me coucherait bedavar gashmi shorei benebassar. La bouteille de coca que j'ai devant moi, un objet matériel. Je peux m'attacher à ça, je peux l'attacher, je m'attache, je sens, je l'attache, je l'attrape. Et bien quand tu t'attaches à quelque chose, un concept, tu dois t'attacher tellement fort à cette chose-là au point que tu sens que tu l'attrapes comme si c'était un objet matériel. Et tu t'approfondis, tu casses ta tête. Ce que tu sens, que ça te parle, qu'on parle de toi et que ça te parle. D'où on sait ça? Kanoda, comme c'est connu, chez Da'at ou les Shon It Kashrut. Comme c'est connu que Da'at, la connaissance, ça vient du mot It Kashrut. It Kashrut, ça veut dire quoi? Attachement. D'où on sait que Mauve Adam Yada. Vous savez, dans la paracha Bereshit, on nous raconte comment Adam a une femme. Et on dit que Adam a connu sa femme. Alors bon, littéralement, ils ont traduit ça par « il a conçu », etc. Mais bon, littéralement, c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit « il a conçu, il a connu sa femme ». C'est quoi il a connu?
C'est au sens biblique.
C'est quoi il a connu? Il la connaissait pas? Il a connu sa femme. D'accord? Il était que deux, en plus, exactement. C'est quoi il a connu? Quand on dit qu'Adam a connu sa femme, ça veut dire qu'il a eu une relation conjugale avec elle. Pourquoi on appelle ça connaître? Quel rapport avec la connaissance? Parce que le « da'at » en hébreu, c'est pas la compréhension. C'est l'attachement. Quand tu t'attaches à quelque chose. Et c'est pour ça que la Torah veut garder un langage pudique. Et elle te dit, Adam a connu sa femme, ça veut dire Adam s'est attaché avec sa femme. Pas Stam qu'il a eu une relation conjugale avec elle comme un chien serait parti avec une chienne. Que bon, c'est une pulsion animale. Non. Adam yada. Il est parti avec sa femme, ça veut dire qu'il s'est attaché avec sa femme. Il s'est attaché du plus grand attachement possible, inimaginable. Et la Torah te dit, Adam yada. Que Adam, il a connu sa femme. Il a connu, il s'est attaché avec sa femme. De là, on comprend que la définition de da'at dans la Torah, parce que c'est la première fois que le terme da'at est écrit dans la paracha Bereshit, la définition de da'at dans la Torah, c'est pas compréhension. La définition de da'at, c'est attachement. Tu t'attaches avec une chose au point, comme un homme qui va avec une femme, qui deviennent un seul corps. On dit que Adam a connu sa femme et ils deviennent un seul corps. Ve'ayu le basar echad, une seule chair. Hein?
Alors qu'il s'est détaché.
Oui, il s'est détaché, mais après, lorsqu'il a des relations avec sa femme, d'accord, ils redeviennent une seule personne et ensemble, ils vont créer quelque chose. C'est comme ça. C'est ça Adam. La définition de Adam dans la Torah, c'est quoi Adam? C'est la jonction d'un homme et d'une femme. Qui crée une nouvelle entité qui s'appelle Adam. Adam, c'est l'être composé de la femme et de l'homme. Et cette action de composition, de relation, d'attachement entre l'homme et la femme, comment la Torah l'appelle? On l'appelle da'at, attachement. De là, on comprend que c'est exactement la même chose. Quand on parle de s'attacher avec quelque chose, ce qu'on te demande ici, c'est pas seulement de comprendre quelque chose, de sentir quelque chose. Parce qu'encore une fois, je peux comprendre quelque chose sans prendre conscience, sans être attaché. Je peux ressentir quelque chose sans être attaché. C'est la force, la gravité de ce qu'on est en train de dire. Je peux ressentir quelque chose sans être attaché à la chose, sans prendre conscience. Je peux penser quelque chose sans être attaché à cette chose. C'est là qu'intervient le da'at. Le petit Moshe, la prise de conscience. La prise de conscience qui te dit, ça suffit pas de connaître, ça suffit pas de ressentir. Il faut te poser la question, en quoi ça me parle à moi, en quoi ça te parle. Et ça, il n'y a pas de secret. Pour arriver à ça, il faut s'approfondir et s'approfondir et s'approfondir et s'approfondir. C'est un travail d'une vie. C'est comme si je vous pose la question, je dis, est-ce que tu connais ta femme? Question? Très bonne question. Est-ce que tu connais ta femme?
Hein?
Mais si on remet tout en question. Est-ce que tu prends conscience?
Dans ta vie, dans ton travail,
mais, tout.
C'est sûr que des fois on la comprend.
Tu peux croire que tu comprends ta femme. Tu peux croire que tu ressens des sentiments envers elle. En vérité, il n'y a pas de prise de conscience. C'est là. Et je vais vous dire, la prise de conscience, elle peut pas venir. Les gens, ils pensent qu'il y a un coup de foudre, etc. Ça, c'est de la zut, ça. C'est ça le coup de foudre.
Je suis beau, t'es belle.
Non mais je vais vous dire, le coup de foudre c'est les sentiments ça. Mais c'est les sentiments sans prise de conscience. D'un autre côté, il y a des gens qui vont se marier intellectuellement, tu vois, il dit bon, elle me plaît, je pense qu'elle est faite pour moi, Il va se marier, mais il y a pas de prise de conscience. Mais la prise de conscience c'est un travail d'une vie. Ça prend une vie entière. Bien sûr qu'il faut une certaine prise de conscience avant de se marier quand même, de prendre conscience qu'elle est que, d'accord. Mais après c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. Des fois il y a des gens, ils se réveillent, ils disent mais qu'est-ce que je fais avec cette femme? Il prend conscience, tu vois. Tout d'un coup, il prend conscience.
Ouais, on n'a pas le temps aussi de s'attacher. Métro, boulot, dodo, les enfants. Ah, on est fatigué.
La vie te donne des occasions de prendre
après
conscience.
Le Shabbat, on doit aller à la synagogue. Le dimanche, il faut qu'on passe la grasse mat. On n'a pas le temps, ça passe très vite. Regarde, on a déjà 50 ans.
On n'a pas le choix.
On n'a rien vu.
Très bien. Dans ce cas-là, David, si on fait ça, On n'aura pas de dat. Ça veut dire qu'on ne sera pas attaché avec les choses.
C'est le dat, il répète.
Il n'y a pas de secret. Regardez, regardez les termes qu'a dit Edmond Razaken. S'immerger profondément la contemplation de la grandeur de Dieu, fixer sa pensée. C'est pas compliqué. C'est des choses simples qu'on te demande. On te dit, tu prends du temps, une fois par semaine, une fois par mois, quand tu veux. D'accord? Quand tu es en voiture, dans un embouteillage, quand tu veux. Quand tu es sous ta douche, quand tu es à la campagne, quand tu es où tu veux. D'accord? Tu prends du temps pour essayer de prendre conscience, de réfléchir. Mais pas stam réfléchir. Réfléchir jusqu'à ce que tu sens que ça te travaille. Et là, à un moment, vous allez voir. Faites l'essai, je vous promets que ça marche. En tout cas, moi, chez moi, ça marche en tout cas. Mais ça prend du temps. Tu fais l'essai, tu essaies de te concentrer. À un moment, tu sens un déclic, tu sens que ça te parle. Là, c'est bon. Ou que ça te parle pas d'ailleurs. Non, mais là, au moins, tu comprends. Là, tu te situes, tu vois. Tu dis, bon, ça me parle pas. Ben, c'est bien, ça te parle pas. Au moins, tu te situes, tu dis, ça me parle pas. Mais si t'es là, tu t'es juste à suivre le mouvement de foule. Alors quoi, le jour où le mouvement de foule ira ailleurs, tu iras ailleurs.
Non, mais tu veux réfléchir à un concept que tu connais pas, c'est pas possible.
Bien sûr, je parle pas de choses que tu connais pas, là. Je parle des choses que. Non, mais David, je parle des choses que tu connais. Ne cherche pas ce que tu connais pas.
Quoi?
Ce que tu connais. Tes mitzvot, ton Shabbat, ta petite étude, tes petites choses. Ce que tu connais. Ce que tu connais. Pendant pas de chercher ce que tu connais pas. Ce que tu connais. Ce que tu connais et que tu fais. Essaye de réfléchir à ce que tu fais. De réfléchir pour prendre conscience. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis venu en cours ce soir? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je me mets de filine? Pourquoi je m'occupe de mes enfants? À quoi ça sert? Pourquoi j'ai des enfants? Pourquoi je suis marié? D'accord? Vous allez me dire, je vais vous rendre fou. Il faut toute une vie pour essayer de répondre à ces questions. Mais c'est pas grave, il faut prendre conscience. Qui suis-je? Bien sûr, tu peux répondre. Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers?
Ouais, c'est la question. Oui,
qu'est-ce que je cherche à obtenir dans ma vie? Quel est mon objectif?
Il y a un but, il y a une volonté.
Bien sûr.
Tu construis, bien sûr.
Vous savez, c'est comme une personne qui est là dans une affaire. Si dans une affaire, tu fais pas d'inventaire, tu fais pas de bilan, tu peux continuer comme ça. Alors avec la force des choses, tu vas gagner un peu de sous parce que bon, il faut bien gagner, d'accord? Mais à un moment, le vrai businessman, c'est celui qui prend conscience. Qui va dire, attends, mais je suis là pour quoi, là? Je suis pas là pour financer mes fournisseurs.
Non, mais je suis là pour.
Je suis là pour gagner des sous. Alors, ils sont où, les sous? Et là, il prend conscience, il dit, hey, oh, pac, il reprend. Non, il dit, vous m'augmentez ça, vous me changez ça, etc. Là, tu comprends? Parce qu'il a des commerciaux, tout fonctionne, vous savez, une boîte, elle peut fonctionner. T'as les commerciaux qui sont là, et ça fonctionne. Et l'action en bourse, elle monte, tout fonctionne. À un moment, t'as un PDG qui arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il a pris conscience. C'est son rôle, il est là pour ça.
Et le jour où il prend conscience.
Eh ben, nous, si vous voulez, on est le PDG de notre corps. Et à un moment, il faut, le rôle d'un PDG, c'est pas de travailler.
Booster les ventes.
Le rôle du PDG, c'est de prendre conscience. C'est l'homme qui doit prendre conscience.
Il est au courant quand même à Kadosh Baruch que c'est un peu dur quand même pour lui.
C'est pas un peu dur, c'est très dur.
Voilà. Mais c'est du jeu. C'est la difficulté.
Mais au moins on sait comment on peut y arriver.
Il te fait travailler. 5578, ça va être dur quand même.
Alors t'es un animal. Il va donner un morceau de
pied. Pourquoi? Ouais, déjà prendre conscience.
Il a mis la barre haute.
Conscience.
Mais je te donne un exemple.
Mais
sûr, c'est un.
Pourquoi tu es là?
Je vais te donner un exemple. Tu as Rosh Hashanah qui va arriver.
Tu vas creuser.
Tu vas être là, tu vas être assis à ta place à la synagogue. Bon. Le Razan, il va chanter. Je sais pas, Achot Ketana, ou je sais pas ce qu'il va chanter, d'accord? D'accord. Il va chanter, bon, une très belle chanson. Est-ce qu'à un moment. Non, mais c'est une question sérieuse que je pose. Est-ce qu'à un moment, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fous là, nom de Dieu?
Moi, je suis un mouton.
Ah, tu blasphèmes.
Comme ça, il dit le nom de Dieu, non?
Non, la question est belle.
C'est comme ça, il dit non?
Je crois que le mouton se demande ce qu'il fait là.
C'est quoi?
C'est un nom de Dieu, c'est genre.
Non. Il y a des figures.
Non, nom de Dieu, ça veut dire. D'accord?
Oh my god.
D'accord? Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Eh, il faut comprendre. À un moment, et là, tu prends quoi? Tu dis, attends, ce soir, je suis jugé là. Là, maintenant, je suis jugé, tu comprends? Maintenant, je suis jugé. Et c'est de moi qu'on parle. Tu vois, ton année, c'est maintenant que ça se passe. Mais c'est un travail, ça, c'est même pas tout seul. Parce que sinon, on peut être noyé dans la masse. Et il va venir, il va écouter des beaux airs, il va souhaiter Shana Tova à tout le monde, sans même traduire que Shana Tova, c'est-à-dire bonne année, qui c'est-à-dire bonne année. Et souhaiter Shana Tova à tout le monde, il va rentrer à la maison, il va manger la pomme trempée dans le miel, il va prendre les simanim, il va prendre la tête de poisson, la tête de poireau, la tête d'agneau, ce que tu veux. Il va aller dormir, il va dire j'ai une bonne année.
Mais
il a pas réalisé une seconde ce qu'il a fait toute cette soirée.
Ceux qui ont pris conscience, c'est qu'ils ont pété un câble. Il y en a plein, hein.
Non.
Des fous, des gens qui sont
partis. Ils sont partis trop vite. Bien sûr. Mais j'ai pas dit.
Ils sont cramés. Ils ont pété un câble.
Bien sûr. Mais j'ai pas dit. Personne t'a dit d'aller trop vite.
Ils ont pris conscience.
Oui.
Ce qu'ils ont fait.
Ça fait peur. Oui, mais d'un autre côté, si, rappelez-vous le début du cours. Atar, Ronen, les Adam, Da'at. Notre qualité première en tant qu'être humain, c'est quoi? C'est le discernement, c'est la capacité de prendre conscience. Si tu prends pas conscience, si tu vis comme un animal, qui se, l'animal aussi, vous savez, il se lève le matin, il va travailler. Mais même chose.
Pas de question,
hein. Il va travailler, il a des enfants. Il va travailler, il a des enfants, il leur donne à manger. D'accord? Il s'énerve sur eux, des fois il les aime, etc. Il va dormir, c'est la même chose.
C'est plus facile de vivre comme ça.
Il prie à Dieu aussi, tu sais, les mêmes, il prie à Dieu aussi, il prie à Dieu.
La vie, une vie, la nuit,
bien sûr.
Ben non, mais il y a.
Mais quelle différence,
les parents, ils voient leur petit à bouffer par un
90% des gens, ils ont décidé de vivre tranquille, à manger.
C'est ça, vivre tranquille, c'est vivre comme un animal, tu vois.
Ouais, tranquille.
Ils se lèvent, tranquille.
Ils ont rien demandé, ils sont arrivés là.
Mais en quoi t'es un être humain? En quoi t'es un être humain?
On sait pas.
Ah, on sait, bien sûr qu'on sait. Mais pourquoi tu ne sais pas? Ça dépend de toi.
Ben, non,
c'est à moi de me remettre en question, de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais ici? Si une personne ne se pose pas cette question, il y a un problème.
Oui, il y a un problème.
Il y a un problème. Il faut se poser, qu'est-ce que je fais là? Alors, je suis pas là pour vous dévergonder, je suis pas là pour... mais il faut se poser des questions. À quoi je sers? Dans ce moment, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu ce soir? Qu'est-ce que je fais ici?
Manger une pizza.
Hein? Voilà. Et non, mais c'est ça. Et à force, David. Non, mais voilà, c'est ça. Et à force de se poser des questions, mais pas. David, pas se poser des questions. Il y a des gens qui se posent des questions. Pour déprimer. Il y a des gens qui veulent tout remettre en question. C'est pas ça le but. Qu'on soit clair, je termine avec ça. Parce qu'on a déjà dépassé. Rabotaille, qu'on soit clair. Le but de ces questions, c'est pas de déprimer. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions juste pour se convaincre qu'ils vivent une vie de zut, d'accord? Et pour dire, je peux justifier d'être déprimé et donc je peux faire n'importe quoi. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Parce que ça sert à rien. Ça, c'est une personne qui veut expliquer les bêtises qu'il va faire, donc il justifie qu'il vit une vie de zut. Non, pourquoi tu veux, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de dire je vis une mauvaise vie. Mon but, d'accord. Mon but, c'est simplement de dire, de me poser les questions. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Et là, vous promets que quand on réfléchit à ça, on découvre beaucoup de choses dans sa vie. Et on avance. On avance.
Moi, j'attends chaque Shabbat.
On voit ce qui marche, ce qui marche pas.
Mon but, c'est Shabbat.
Ah, je l'ai pas lu. Ouais.
C'est ce qu'il dit à un moment donné. Boire un bon finalement, coup, la psychologie peut pas répondre à une suite.
Participer au pas bringue.
Mais non, c'est encore autre chose.
Pas bringue.
Non, non. Tu peux étudier sans boire.
Il faut
aussi
les fortunes.
Le séjour. Mais non, mais voilà. Ça, je compte pour du beurre, ça.
Ça, c'est en plus.
Ça, c'est vrai.
Ah, Zach, c'est vrai.